souvenir de famille. Alain Perfitte, de l'Académie française, par son fils Benoît Perfitte. Benoît Perfitte, le fils d'Alain Perfitte, partage avec nous ses souvenirs émouvants. Il a vécu des moments très intenses aux côtés de l'homme d'État, puisqu'Alain Perfitte est déjà ministre lorsque son fils Benoît est encore un enfant. Ce dernier raconte l'homme public et l'homme privé, l'écrivain qui fut reçu à l'Académie française le 13 octobre 1977. Vous écoutez également dans cette émission deux extraits tirés du discours de Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut de France, qui a succédé à Alain Perfitte le 7 février 2002, discours donc d'éloge de son prédécesseur.
Avant tout, c'était quelqu'un de passionné, quelqu'un de passionnant. C'était mon père, donc il y a certainement un décalage énorme entre l'image qu'il a pu donner de lui-même en tant que diplomate, écrivain, homme politique, donc homme d'État, où souvent à la télévision, il pouvait avoir l'air sérieux. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait énormément d'humour, qui adorait rire aux éclats, avec lequel j'ai partagé beaucoup, beaucoup de choses, parce que je suis le petit dernier. J'avais 4 sœurs, j'en ai 3, malheureusement, j'en ai perdu une en 1996, ma sœur Christelle. Et donc, ayant 6 ans de moins que ma plus jeune sœur, j'ai vécu avec mes parents de façon très proche et très intime. Et j'ai lié une complicité avec mon père et ma mère différente de ce qu'ont pu vivre mes sœurs. Mes sœurs ont vécu aussi des tas de choses, puisque mes 3 sœurs aînées sont nées en Allemagne. Comme mon père a été diplomate, moi, je suis né à Paris. Et donc, moi, je suis né, il était déjà homme politique. Donc, le diplomate, je l'ai écouté me raconter toute sa vie de diplomate. J'ai lu beaucoup. Mes sœurs m'ont raconté, ma mère m'a raconté, mais je n'ai pas vécu sa vie de diplomate. Mais j'ai vécu sa vie d'homme politique et sa vie d'écrivain. Et puisqu'on est à l'Académie française, puisqu'on est au Palais de l'Institut, qu'on est à Canal Académie, c'est sûr que, avant de revenir à des souvenirs très personnels avec mon père, je n'oublierai jamais sa réception à l'Académie française le 13 octobre 1977, où pour la première fois, la télévision était là en direct, France 3, avec des commentaires de Christine Ockrinthe, et rediffusée le soir sur TF1 à 22h30 avec des commentaires de Léon Zitrone, un monument de la télévision. J'avais 16 ans à l'époque et j'oublierai jamais, c'est Claude Lévi-Strauss qui a reçu mon père, un monstre sacré. C'était un honneur immense pour mon père d'avoir été reçu par Claude Lévi-Strauss qui a fait un magnifique discours qui se trouve dans le site internet www.alainperfitte.fr et .com. Et ce site d'ailleurs s'intitule ce qui est la spécificité d'Alain Perfitte, Alain Perfitte 1925-1999, un intellectuel en politique. Parce qu'il a été indissolublement un diplomate, un écrivain et un homme politique. Les 3 sont aussi autant importants. Parce que l'un a nourri l'autre et le deuxième a nourri le troisième. Et le premier, le deuxième et vice-versa. Et donc, je pense que mon père avait besoin de beaucoup d'action et adorait être un véritable homme politique sur le terrain, un maire, un conseiller général, un député, puis un sénateur. Je crois que de tous les titres qu'il a eus, c'était Monsieur le maire qui a le plus compté pour lui, plutôt que Monsieur le ministre. Et donc, je pense que son action a alimenté sa réflexion, et sa réflexion lui a permis d'agir et lui a permis de réfléchir à la façon dont il allait agir quand il était nommé à tel ou tel ministère, puisqu'il a été 8 fois ministre de 1962 à 1981, c'est-à-dire à l'arrivée de la gauche et de François Mitterrand. Il a été garde des Sceaux de 1977 à 1981, mais il y a eu 2 remaniements, mais c'était dans la continuité. Mais il a été aussi ministre des réformes administratives et du plan, il a été ministre de la culture et de l'environnement, et il a été ministre de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Un ministère qui l'a spécialement passionné, et ministère de l'Éducation nationale. Donc. Mais la recherche scientifique et les questions atomiques et spatiales, ça lui a permis de lancer le système de télévision couleur française CECAM. C'est mon père qui a fait en sorte que le CECAM existe. C'était un juste lien avec le fait qu'avant, il avait été porte-parole du gouvernement et du général de Gaulle, et le ministre de l'Information, qui avait créé le statut de l'ORTF, qu'il avait inauguré la maison de la radio. Et donc, c'était un passionné d'audiovisuel et des nouveaux médias qui naissaient à l'époque. Et donc, en tant que ministre de la Recherche, il a d'une part lancé ce système CECAM, mais aussi il a préparé le développement de la bombe H, qui arrivait après la bombe A. Et les chercheurs piétinaient et il a trouvé l'oiseau rare, un homme extraordinaire, Robert Dautray, qui a découvert la bombe H et qui a fait de la France l'un des rares pays à avoir cette bombe, dont, j'espère, on ne se servira jamais. Mais comme vous le savez, c'est la force de dissuasion. C'est l'avoir, mais ne pas l'utiliser. Et comme vous le savez, la France fait partie des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et le fait que la France, comme les États-Unis, ait la bombe atomique est importante. Mais elle a arrêté ses essais depuis longtemps maintenant. L'éducation nationale, il avait un projet solide sur lequel il a pu réfléchir et qui devait aboutir. Et puis il y a eu mai 68. Mais que personne n'avait prévu, et alors là, ça n'a rien de dire, ah, je l'avais prévu, j'y avais pensé, personne n'a vu venir mai 68. Donc ça a balayé toutes les idées de réforme qu'il avait, il avait énormément d'idées sur l'éducation nationale, et ça c'est dommage. Mais après, en 68, il y a eu des législatives, il a été réélu facilement député de Seine-et-Marne, député de Provins, puisqu'il était à la fois maire de Provins et député. Et il est devenu président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Et donc, à travers cette commission, il a pu continuer à avoir une influence importante sur les projets relatifs à l'éducation nationale et à la famille. J'ai eu cette chance de sans doute beaucoup plus le voir que physiquement, que mes sœurs, parce que, à cause de mon âge, je l'accompagnais tous les week-ends à Provins, que j'ai voyagé dans le monde entier avec lui, que j'étais plusieurs fois en Chine avec lui, que j'ai été aux États-Unis avec lui, en Norvège, en Finlande, au Maroc, au Canada, au Québec plusieurs fois, au Brésil, à Singapour, à Hong Kong, j'en passe des meilleurs, à Nouvelle-Calédonie. Donc à travers ses voyages et à travers les vacances que j'ai pu passer avec lui, parce que c'était un grand sportif, un amoureux du sport. C'était un amoureux de la nature aussi. Et chaque année, on allait faire du ski au moins 2 fois par an. C'était un amateur de ski. Et l'été, c'était un amateur de ski nautique. Donc, moi, j'ai appris à faire du ski nautique à l'âge de 8 ans et du ski à l'âge de 3 ans. Et j'ai pu passer mon chamois de bronze et la flèche d'argent grâce au fait que j'avais un père qui me permettait de faire du ski 2 fois par an.
Alain Perfit a la chance des chercheurs de diamants qui découvrent la pierre rare. En 1954, en effet, il achetait chez un bouquiniste de Cracovie une bibliothèque des voyages contenant la relation de l'ambassade de Lord McCartney en Chine en 1793. 25 ans plus tard, un professeur chinois de ses amis exhume dans les archives de la cité interdite la correspondance secrète adressée à l'empereur au sujet de cette ambassade et annotée par lui. Les missionnaires en ont également donné des récits qui gisent encore dans les archives des ordres. 5 voyages, 10 années de recherche, 4 années d'écriture font de l'Empire immobile un voyage philosophique d'un prodigieux intérêt.
Mon père était tellement cultivé, avait tellement lu, répétait des poèmes tous les matins en se rasant, écrivait tard le soir, que j'ai appris la géopolitique, la géographie, l'histoire grâce à mon père, et la politique tout court, et les institutions de la Ve République. Mais la Chine m'a fasciné, le Tibet avec mon père m'a fasciné, le Canada et le Québec aussi, c'est difficile à dire. J'étais en Italie avec lui, j'ai des souvenirs extraordinaires d'un voyage à Venise ou d'un voyage à Florence... D'un voyage à Séville, c'est difficile à dire parce qu'à chaque fois, j'apprenais des choses. Et puis c'était un dialogue. C'est quelqu'un qui passe sa vie à prendre des notes, qui avait toujours sur lui un petit carnet beige. Et quel que soit l'interlocuteur, que ce soit le général de Gaulle, que ce soit un président de la République d'un autre pays, un chef d'État, un premier ministre, un chauffeur de taxi, quelqu'un de sa famille, un électeur, un militant, il écrivait ce qu'on lui racontait. Et c'est vrai que, comme je m'intéressais à la politique, à la géopolitique et à l'histoire, on avait souvent des conversations qui étaient très riches.
Quiconque douterait qu'Alain Perfit fût un écrivain né devrait se reporter à ses livres de jeunesse. Ils sont toujours révélateurs et montrent la force de la sève. Un premier roman, « Les roseaux froissés », obtint 2 voix au Renaudot. Écrit à 20 ans dans la filiation du Grand Maulne il dévoilait l'adolescent introverti qui s'engage tout entier et intériorise les interdits, alors que d'autres, autour de lui, les transgressent. De nos jours, remarquera l'auteur, ce sont les purs qui transgressent la permissivité. Ils sont plus nombreux qu'on ne croit. Le mythe de Pénélope, parrainé chez Gallimard par Albert Camus et Marcel Arlan, témoigne de dons éclatants. Entrant après Racine, Dostoïevski, Gide, Valéry, dans la familiarité des grands mythes, Alain Perfitte réinterprète l'Odyssée en donnant du poème une lecture nouvelle qu'avait pressenti Aristote.
C'est sûr que mon père était un passionné qui travaillait comme un fou, mais c'est sûr qu'à la fin des fins, il a voulu laisser une œuvre. Donc c'est l'écrivain qui finalement, à mon avis, a pris le dessus et a été clairement ce qui a le plus compté pour lui. Laisser une œuvre sur la Chine, quand la Chine s'éveillera, l'Empire immobile, la série sur le choc de culture. Quand la Chine s'éveillera m'a beaucoup marqué, le mal français naturellement, mais aussi son premier essai, le mythe de Pénélope, qu'il a écrit à 20 ans, qu'il a présenté aux éditions Gallimard à 21-22 ans, et qui a été lu par Albert Camus et Marcel Arlan, et qui a été donc accepté par Gallimard grâce à Albert Camus et Marcel Arlan. Et le mythe de Pénélope, c'est le fil rouge de sa vie, et c'est le fil rouge de toute sa vie littéraire, dans la mesure où le thème du mythe de Pénélope, c'est la confiance. Et d'ailleurs, il a présenté sa thèse de doctorat en février 1994, en Sorbonne, et on a fait un livre qui s'appelle « La société de confiance », et il a donné des cours, 5 leçons au Collège de France, l'hiver 94-95. Il en a tiré un livre qui s'appelle « Du miracle en économie », mais il essaie de démontrer que le ressort des nations, des États, des peuples, c'est pas uniquement le travail, c'est pas seulement des choses rationnelles, mais c'est tout le côté irrationnel, justement, de la confiance qu'on peut donner à quelqu'un et qu'on doit recevoir pour être assez fort, pour être soi-même, pour réaliser, pour se métamorphoser et s'épanouir dans la vie. Il travaillait toute la journée et il acceptait très peu les dîners en ville et il fuyait tout ce qui était mondanité. Donc c'est sûr que surtout les 15-20 dernières années de sa vie, il consacrait ses soirées et tard, souvent jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin à écrire ses livres. Ou les week-ends, quand il avait un peu de temps, ou pendant les voyages, en avion, en voiture, toute occasion est une occasion pour écrire. Il écrivait même dans un téléphérique, sur un télésiège ou en faisant du téléski. Donc ça lui arrivait de lire un livre de poche en faisant du téléski, avec un crayon à la main, parce qu'il avait toujours un crayon à la main quand il lisait un livre, pour souligner, pour noter. Il y a deux parties, il y a 50% de choses extraordinaires et magnifiques que j'ai pu voir et vivre grâce à lui et grâce à ma mère. Ma mère a une place très importante, elle l'a beaucoup aidé, a pris en dictée la plupart de ses livres les plus importants, comme « Quand elle s'éveillera » et « Le mal français » ou ses livres de jeunesse. De l'autre, se faire un prénom quand on est le fils d'Alain Perfitte, c'est extrêmement difficile et soit on a affaire à des gens intéressés, soit on vous voit uniquement à travers l'image de votre père, soit on vous considère comme peu de choses par rapport à la qualité exceptionnelle qu'avait mon père. Et c'est vrai que ça a été un homme d'exception dans tous les domaines, mais je crois qu'il faut suivre sa voie, il faut être soi-même. Et 3 jours avant, donc, il avait reçu son épée d'académicien des mains du père Carré, du révérend Père Carré, qui a été prédicateur de Notre-Dame de Paris et qui a été un grand ecclésiastique, un grand chrétien, un grand prêtre que mes parents ont connu très jeune. Il les a mariés, il m'a donné la première communion et il a donné l'extrême onction à mon père juste avant la mort de mon père. Le Père Carré est mort très vieux, plus de 95 ans, je ne me souviens plus, mais 2-3 ans après mon père. Donc, le Père Carré lui a remis son épée. Sur une épée, il y a les symboles importants de sa vie. Parmi les symboles, il y avait la flèche de la cathédrale de Chartres. Pourquoi ? Parce que mes parents se sont connus en 1946 à Chartres, lors du pèlerinage des étudiants de Chartres. Et ils étaient chacun cheftaine et chef de guide. C'est le nom qu'on donne à des gens qui ne sont plus scouts, mais qui entourent et qui entraînent des scouts. Et donc, cette rencontre extraordinaire au pèlerinage de Chartres a beaucoup compté dans sa vie. Naturellement, il y a une croix de Lorraine parce que De Gaulle est au centre de sa vie et que ses 3 livres sur De Gaulle, c'était De Gaulle. C'est, à mon avis, le grand livre de mon père qui passera à la postérité, parce que c'est un livre unique, puisque c'est de Gaulle en direct, un témoignage vivant. Et il y a aussi la Tour de César de Provins, puisque mon père a été un maire de Provins pendant 32 ans, député et sénateur pendant 41 ans de Seine-et-Marne, et que Provins a énormément compté pour lui. Il y a d'autres symboles, naturellement. Mon père succédait à Paul Morand, et se devait de faire l'éloge de Paul Morand. Et Paul Morand a été diplomate, et a été un grand voyageur devant l'Éternel. C'était un discours important, parce que Paul Morand avait été plutôt du côté, non pas de la résistance du général de Gaulle, mais de l'autre côté. Donc c'était en fait une sorte de réconciliation. C'était important qu'un gaulliste comme mon père puisse faire l'éloge d'un homme comme Paul Morand. Et de l'autre, mon père a été reçu par le plus célèbre ethnologue que la France ait jamais connu, Claude Lévi-Strauss. Et donc, Claude Lévi-Strauss a raconté sa vie de A à Z, avec détails sur son enfance. Mon père est né à Najac, le 26 août 1925, dans l'école où mes grands-parents enseignaient, puisque à la fois mon grand-père et ma grand-mère, du côté de mon père, étaient tous les deux enseignants. Cette réception était assez exceptionnelle, puisque je vous l'ai dit, la télévision était là, le président de la République était là, le banc et l'arrière-banc de la classe politique, médiatique, diplomatique était là. Il y avait un côté solennel, très prenant, beaucoup d'émotions. Ma grand-mère était là, mon grand-père ne pouvait pas être là parce que mon grand-père était aveugle. Ça l'aurait trop fatigué à cette époque-là, mais pour ma grand-mère, qui avait été une simple enseignante dans différents villages et différentes villes d'Aveyron, puis à Montpellier, c'est sûr que c'était pour elle une émotion immense que de voir son fils rentrer à l'Académie française. Et il a lu tous les livres de Paul Morand. Il avait eu la chance extraordinaire de déjeuner avec Paul Morand, je crois en juillet 1976, avec Jean Guiton, qui allait devenir l'un de ses deux parrains à l'Académie française, et Claude Lévi-Strauss, qui l'a reçu à l'Académie française. Et c'était la première fois que mon père a eu l'occasion de discuter longtemps avec Paul Morand. Il l'avait croisé deux, trois fois avant, mais ce déjeuner était symbolique et quelque chose d'incroyable. Je crois que l'Académie française a représenté beaucoup, beaucoup pour mon père. Et il a été un académicien très assidu. Il venait au maximum tous les jeudis après-midi. 10 ans après, il a été élu aussi à l'Académie des sciences morales et politiques, qui est assez rare. Les académiciens qui sont membres de deux académies, l'actuel chancelier de l'Institut, M. Gabriel Le Breuil, est un de ces exemples, qui a été d'abord membre de l'Académie des sciences morales et politiques et qui a succédé à mon père à l'Académie française. Mais il y a d'autres exemples. Non, il a pris à cœur cette vie d'académicien, le dictionnaire, les discussions. Il s'est fait beaucoup de nouveaux amis. Quelqu'un comme Alain Decaux est devenu ami de mon père à l'Académie française. Ils n'avaient pas les mêmes opinions politiques. Bon, Jean d'Ormesson, par contre, c'était un ami d'enfance. Il s'était connu sur les bancs de Normale Sup. Il a connu, avant qu'elle ne rentre à l'Académie française, quelqu'un comme Hélène Carrère-Dancausse, qu'il estimait énormément et qu'il aimait beaucoup. Je crois que c'est réciproque. Et il a, je crois, soutenu largement l'élection d'Hélène Carrère-Dancausse comme secrétaire perpétuel de l'Académie française, quelques semaines avant sa mort, à l'automne 1999. Mais surtout, il a, avec Jean d'Ormesson, il s'est battu pour faire élire la première femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar, en 1980. Et en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice, il a fait en sorte qu'elle puisse retrouver la nationalité française, parce qu'il lui suffisait de signer un papier qu'elle avait oublié de signer quand elle est devenue majeure, parce qu'elle était belge. Elle vivait aux États-Unis dans une île qui s'appelle l'île de Mont Desert, Mount Desert Island, au nord de Boston. Et mon père a envoyé le consul général de France à Boston chez Marguerite Yourcenar pour qu'elle signe un papier lui permettant de retrouver la nationalité française. Et il y a deux phrases qui sont sur son épée et puis sur son ex libris, qui était un tampon qui lui permettait d'identifier tous ses livres. C'est encore un peu plus outre. Et encore un peu plus oul, c'est encore un peu plus en avant, un peu plus haut, toujours plus loin, pousser ses limites d'homme, d'intellectuel, d'écrivain, d'homme politique. Et puis, une phrase du général de Gaulle qui était « La seule querelle qui vaille est celle de l'homme ». Et je crois que cette phrase « La seule querelle qui vaille est celle de l'homme » rejoint justement toute sa philosophie, tout le fil rouge de sa vie, qui a été la confiance.
Merci beaucoup Benoît Perfitte d'être venu dans cette émission nous parler de votre père, de sa vie, de son œuvre et à travers vos mots on a pu mieux le connaître. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez créé un site alainperfitte.fr, alainperfitte.com, donc deux sites sur lesquels vous pourrez retrouver tous les documents liés à sa vie, des citations, des vidéos, des sons, des textes très intéressants et beaucoup de photos. Merci beaucoup. Vous retrouvez cette émission sur canalacademy.com.